Gants blancs, guêtres blanches. Béchou sauta de son taxi et se précipita dans l'agence comme un ouragan. Ah, ça, c'est gentil! On s'est quitté froidement l'autre jour et j'avais peur que tu ne fusses fâché. Alors, quoi, tu as besoin de moi?
Oui, Barnett.
Barnett lui secoua vigoureusement les mains. Tant mieux! Mais qu'y a-t-il donc? Tu es tout rouge. Tu n'as pas la scarlatine?
Ne ris pas, Barnett. Le cas est difficile et je voudrais en sortir à mon honneur.
De quoi s'agit-il?
De ma femme.
Ta femme? Tu es donc marié?
Divorcé depuis 6 ans.
Incompatibilité d'humeur?
Non, elle obéissait à sa vocation.
Qui était de te quitter?
Elle voulait faire du théâtre. Tu vois ça d'ici, la femme d'un inspecteur de police.
Et elle a réussi?
Oui, elle chante.
À l'opéra?
Aux Folies Bergères.
Son nom?
Olga Vauban. La chanteuse acrobate? Ouais.
Toutes mes félicitations, Béchou. Olga Vauban est une véritable artiste qui a trouvé avec ses chansons disloquées une formule nouvelle.
Son dernier numéro, chanter la tête en bas.
Isidore m'adore, mais c'est j'aime que j'aime.
Vous donne le frisson du grand art. Je te remercie. Tiens, voilà ce que je reçois d'elle,
dit Béchou en lisant un pneumatique griffonné au crayon et daté du matin même. On a volé ma chambre à coucher, ma pauvre mère presque assassinée. Viens, Olga. Presque assassinée est une trouvaille.
Aussitôt, j'ai téléphoné à la préfecture, où l'affaire est déjà connue, et j'ai obtenu d'être adjoint à ceux de mes collègues qui sont sur les lieux.
Et qu'est-ce que tu crains?
De la revoir.
Tu l'aimes toujours?
Quand je la vois, ça me reprend. J'ai la gorge serrée, je bafouille. Tu imagines une enquête dans ces conditions? Je ne ferai que des bêtises.
Tandis que tu voudrais, au contraire, rester digne en face d'elle et te montrer à la hauteur de ta réputation.
Justement. Bref, tu comptes sur moi. Oui, Barnett.
Quelle conduite mène-t-elle, ton épouse?
Irréprochable. N'était sa vocation, Olga serait encore Madame Béchou.
Et ce serait dommage pour l'art, dit gravement Jim Barnett, qui prit son chapeau. En quelques minutes, ils atteignirent une des rues les plus calmes et les plus désertes qui avoisinent le jardin du Luxembourg. Olga Vauban occupait le 3e et dernier étage d'une maison bourgeoise dont les hautes fenêtres du rez-de-chaussée étaient pourvues de barreaux de fer.
Un mot encore. Renonce pour une fois à ces prélèvements qui déshonorent nos expéditions.
Ma conscience.
Laisse-la tranquille. Et pense à la mienne et aux reproches qu'elle me fait.
Me crois-tu capable de dévaliser Olga Vauban?
Je te demande de ne dévaliser personne.
Même pas ceux qui le méritent?
Laisse à la justice le soin de les punir.
Bon, c'est bien moins drôle. Enfin, puisque tu le désires. Un agent de police gardait la porte. Un autre restait dans la loge avec le couple des concierges que l'aventure avait fâcheusement remué. Béchou apprit que le commissaire du quartier et que 2 agents de la sûreté sortaient de la maison et que le juge d'instruction avait fait une enquête sommaire.
« Profitons de ce qu'il n'y a personne !»
Et tout en montant, il expliquait.
« C'est ici une ancienne demeure où l'on a conservé les habitudes d'autrefois. Par exemple, la porte reste toujours close, personne n'a la clé et on ne peut entrer qu'en sonnant. » Au premier habite un ecclésiastique, au second un magistrat, et la concierge fait leur ménage. Quant à Olga, elle vit l'existence la plus respectable entre sa mère et 2 vieilles bonnes qui l'ont élevée.
On le rouvrit. Béchou précisa que le vestiaire menait à droite vers la chambre et le boudoir d'Olga, à gauche vers les chambres de la mère et des 2 vieilles bonnes, et que, en face, il y avait un atelier de peinture transformé en gymnase, avec une barre fixe, un trapèze, des anneaux et de multiples accessoires disséminés parmi les fauteuils et les canapés. À peine furent-ils introduits dans cette salle que quelque chose tomba d'en haut, de la verrière par laquelle le jour pénétrait. C'était un petit jeune homme qui riait et secouait, au-dessus d'un délicieux visage, une tignasse de cheveux roux ébouriffés. Sous son pyjama serré à la taille, Barnett reconnut Olga Vauban. Elle s'écria aussitôt, avec des intonations faubouriennes.
« Ah, tu sais, Béchou, maman va très bien. Elle dort, ma chère maman, quelle veine !»
Elle piqua une tête qu'il adressa sur ses deux bras tendus, les pieds en l'air, et elle chanta, d'une voix de contralto émouvante et enrouée,
« Isidore, m'adore, mais c'est j'aime que j'aime. Et je t'aime bien aussi, mon brave Béchou. Ah oui, c'est chic à toi d'être venu si vite.
Jim Barnett, un camarade, » présenta Béchou, qui essayait de tenir bon, mais dont l'œil humide et des tics nerveux trahissaient le désarroi.
« Ah, parfait! À vous deux, vous allez démêler toute cette histoire et me rendre ma chambre à coucher. Ah, ça vous concerne? Ah, à mon tour, je vous présente Del Prago, mon professeur de gymnastique, masseur, maquilleur, marchand de pommades et produits de beauté, qui fait fureur auprès de ces demoiselles du music hall, et qui vous rajeunit et vous désarticule comme pain. Eh, salut, Del Prago! »
Del Prago s'inclina. Il avait des épaules larges, une peau cuivrée, une figure épanouie et l'allure d'un ancien clown. Il était habillé de gris, guêtré et ganté de blanc, et tenait à la main un chapeau de feutre clair. Et tout de suite, gesticulant, grasseyant, mêlant au français exotique dont il usait des mots d'espagnol, d'anglais et de russe, il voulut exposer sa méthode de dislocation progressive. Olga lui coupa la parole.
« Ah, pas de temps à perdre! Qu'est-ce qu'il te faut comme renseignement, Béchou? Tout d'abord, fais-nous voir ta chambre. Allons-y, et presto !»
D'un bond, elle s'accrocha au trapèze, dont l'élan la jeta sur les deux anneaux, d'où elle dégringola devant la porte.
« Nous y sommes !»
La chambre était absolument radicalement vide. Lit, meubles, rideaux, gravures, glaces, tapis, bibelots, plus rien. Une chambre n'est pas plus nue où les déménageurs ont opéré. Olga pouffa de rire.
« Hein ? L'ont-ils nettoyé ? Jusqu'à mon jeu de brosse en ivoire qu'ils ont raflé. On dirait qu'ils ont même emporté la poussière. Et est-ce que j'y tenais à ma chambre ? Pur Louis XV, acheté pièce par pièce. Un lit où coucha la Pompadour. 4 gravures de boucher. Une commode signée. Ah ben des merveilles, quoi! Tout l'argent de ma tournée en Amérique y avait passé. »
Elle fit un saut périlleux sur place, secoua sa chevelure et s'écria gaiement.
« On s'en paiera une autre! Avec mes muscles en caoutchouc et ma voix éraillée, je ne suis pas en peine. Et qu'est-ce que tu as à me reluquer ainsi, Béchou? On dirait toujours que tu vas t'évanouir à mes pieds. Eh bien que je t'embrasse et défile-moi tes questions, qu'on en finisse avant l'arrivée des types du parquet. »
Béchou prononça.
« Raconte ce qui s'est passé. »« Oh, c'est pas long. Voilà. Alors hier soir, la demi de 10 heures venait de sonner. Il faut vous dire que j'étais parti à 8 heures avec Del Prego, qui m'accompagnait aux Folies Bergères à la place de maman. Elle tricotait, maman. Donc, la demi sonne, et tout à coup, un peu de bruit du côté de ma chambre. Elle y court, à la lueur d'une lampe électrique qui s'éteint aussitôt. » Elle avise un homme qui démonte le lit et un autre qui lui dégringole sur la tête et la renverse, tandis que le premier l'encapuchonne d'un tapis de table. Alors il déménage la pièce, l'un d'eux descend dans les meubles au fur et à mesure. Maman ne bouge pas, elle ne crie pas. Elle entend une grosse auto qui démarre dans la rue. Et puis elle tourne de l'œil. De sorte que, quand tu es revenu des Folies Bergères, j'ai trouvé la porte d'en bas ouverte, la porte de cet appartement ouverte, et maman évanouie. Tu penses mon ahurissement?
Et les concierges?
Tu les connais, hein? Deux bons vieux qui habitent là depuis 30 ans et qu'un tremblement de terre ne dérangerait pas. Il n'y a que le coup de sonnette qui est capable de les réveiller la nuit. Or, Ils jurent leur grand Dieu que de 10h du soir, heure à laquelle ils se sont endormis, jusqu'au matin, personne n'a sonné. Et par conséquent, qu'ils n'ont pas une seule fois tiré le cordon qui ouvre. Et c'est ça même. Et les autres locataires? Rien entendu non plus. En fin de compte, quoi? Ton avis, Olga?
La jeune femme s'emporta.
Ah mais t'en as de bonne, toi! Est-ce que c'est mon affaire d'avoir un avis? Ah bah vrai, tu m'as l'air aussi godiche que les types du parquet.
Mais c'est à peine si on commence.
Et tout ce que j'ai dit, Bouffi, ça te suffit pas pour éclairer ta lanterne? Si le dénommé Barnett est aussi gourde que toi, je peux dire adieu à mon lit Pompadour.
Le dénommé Barnett s'avança et lui demanda « Pour quel jour le désirez-vous, votre lit Pompadour, madame ?»«
Comment ?»
dit-elle en regardant avec surprise ce personnage un peu falot d'apparence et à qui elle n'avait accordé aucune attention. « Je voudrais savoir le jour et l'heure où vous désirez rentrer en possession de votre lit Pompadour et de toute votre chambre. »
« Mais... »
« Fixons la date. C'est aujourd'hui mardi. Mardi prochain, cela vous convient-il ?» Elle ouvrait de grands yeux ronds et semblait suffoquée. Que signifiait cette proposition insolite? Plaisanterie ou fanfaronnade? Et tout à coup, elle pouffa de rire.
Ah, voilà un rigolo! D'où l'as-tu sorti, ton copain Béchou? Ah oh ben non, tu sais, il en a de l'estomac, le dénommé Barnett. Une semaine! On dirait qu'il l'a dans sa poche, mon lit Pompadour. Et tu t'imagines que je vais perdre mon temps avec des lascars comme vous?
Elle les poussa tous deux jusqu'au vestibule.
Allons, décampez! Et qu'on vous revoie plus! Ah, j'aime pas qu'on se paie ma tête, hein! Ah ben quel farceur, ces cocos-là!
La porte de l'atelier fut refermée bruyamment sur les deux cocos. Béchou, désespéré, gémit.
« Il n'y a pas 10 minutes qu'on est arrivé. »
Tranquillement, Barnett examinait le vestibule tout en posant quelques questions à l'une des vieilles bonnes. Et quand ils eurent descendu l'escalier, il entra dans la loge des concierges, qui l'interrogea également. Puis, une fois dehors, il sauta dans un taxi qui passait et donna son adresse de la rue de la Borde, tandis que Béchou demeurait tout ébaubi sur le trottoir. Si Barnett avait du prestige aux yeux de Béchou, Olga lui en imposait davantage encore. Et il ne douta point que, selon l'expression d'Olga, Barnett ne se fût tiré d'embarras par une promesse qui ne pouvait être qu'une farce. Béchou en eut la preuve le lendemain, quand il se rendit à l'agence Barnett. Dans son fauteuil, les pieds sur son bureau, Barnett fumait.
Si c'est comme ça que tu prends les choses à cœur, nous risquons de patauger ad aeternum. J'ai beau me démener là-bas, les types du parquet n'y fichent goutte. Moi non plus d'ailleurs. On est bien d'accord sur certains points, par exemple, qu'il y a impossibilité matérielle, même avec une fausse clé, de pénétrer dans la maison si on ne vous ouvre pas de l'intérieur. Et comme il n'y avait personne à l'intérieur que l'on puisse soupçonner de complicité, on arrive bien à ces deux conclusions inévitables. Premièrement, que l'un des deux cambrioleurs se trouvait dans la maison dès la fin de la journée précédente et qu'il a ouvert à son complice. Deuxièmement, qu'il n'avait pu s'introduire sans être vu par l'un des concierges, puisque la porte de la maison reste toujours fermée. Et qui est entré? Qui servit d'introducteur? Mystère. Et alors ?
Barnett ne se départit pas de son silence. Il paraissait absolument étranger à l'affaire. Et Béchou continuait.
On a établi la liste des quelques personnes venues la veille. Pour chacune d'elles, les concierges sont aussi catégoriques. Toute personne entrée est ressortie. Donc, aucun indice. Et le cambriolage que l'on suit dans ces diverses phases, et qui a été accompli avec des moyens si simples et une telle audace, demeure absolument inexplicable, en ce qui concerne son origine même. Hein ? Et qu'en dis-tu de cette affaire ?
Barnett s'étira, sembla revenir à la réalité,
et prononça « Elle est délicieuse. »
« Qui ? Quoi ? Qu'est-ce qui est délicieuse ?»«
Ta femme. »
« Hein ? » ?»«
Aussi délicieuse dans la vie que sur la scène. Une animation, une exubérance. Un vrai gamin de Paris. Et avec ça, du goût et de la délicatesse. L'idée est de mettre ses économies dans l'achat d'un lit Pompadour. N'est-ce pas charmant ? Béchou, tu ne mérites pas ta veine. »
« Ma veine, il y a beau temps qu'elle s'est évanouie. »
« Après avoir duré ?»«
Un mois. »
« Et tu te plains ? »